Vous connaissez maintenant le but que je voudrais poursuivre de concert avec vous. Je voudrais poser devant vous le problème de l'enseignement secondaire dans sa totalité, et cela pour deux raisons. D'abord, pour que vous puissiez vous faire une opinion sur ce que cette culture doit devenir. Puis, pour que de cette recherche faite en commun se dégage un sentiment commun qui facilite votre coopération de demain. Et maintenant, le but ainsi posé, cherchons par quelle méthode il peut être atteint. Un système scolaire, quel qu'il soit, est formé de deux sortes d'éléments. Il y a d'une part tout un ensemble d'arrangements définis et stables, de méthodes établies, en un mot d'institutions, car il y a des institutions pédagogiques comme il y a des institutions juridiques, religieuses ou politiques. Mais en même temps, à l'intérieur de la machine à s'y constituer, il y a des idées qui la travaillent et qui la sollicitent à changer. Sauf peut-être à de rares moments d'apogée et de stationnement, il y a toujours, même dans le système le plus arrêté et le mieux défini, un mouvement vers autre chose que ce qui existe, une tendance vers un idéal plus ou moins clairement entrevu. Vu du dehors, l'enseignement secondaire se présente à nous comme un ensemble d'établissements dont l'organisation matérielle et morale est déterminée. Mais d'un autre côté, cette même organisation abrite en elle des aspirations qui se cherchent. Sous cette vie fixée et consolidée, il y a une vie en mouvement qui, pour être plus cachée, n'est point négligeable. Sous le passé qui dure, il y a toujours du nouveau qui se fait et qui tend à être. Vis-à-vis de ces deux aspects de la réalité scolaire, quelle sera notre attitude ? Du premier, les pédagogues se désintéressent d'ordinaire. Peu leur apportent ces arrangements divers que le passé nous a légués. Le problème tel qu'il se le pose, les dispense d'y attacher aucune importance. Esprit éminemment révolutionnaire, au moins pour la plupart, la réalité présente est sans intérêt à leurs yeux. Ils ne la supportent qu'avec impatience et rêvent de s'en affranchir pour édifier de toutes pièces un système scolaire entièrement nouveau où se réalise adéquatement l'idéal auquel ils aspirent. Dès lors, que peuvent leur faire les pratiques, les méthodes, les institutions qui existaient avant eux ? C'est vers l'avenir qu'ils ont les yeux fixés. Ils croient pouvoir l'évoquer du néant. Mais nous savons aujourd'hui tout ce qu'il y a de chimérique et même de dangereux dans ces ardeurs d'iconoclastes. Il n'est ni possible ni désirable que l'organisation présente s'effondre en un instant. Vous aurez à y vivre et à la faire vivre, et pour cela, il faut la connaître. Et il faut la connaître aussi pour pouvoir la changer. Car les créations ex nihilo sont tout aussi impossibles dans l'ordre social que dans l'ordre physique. L'avenir ne s'improvise pas. On ne peut le construire qu'avec les matériaux que nous tenons du passé. Nos innovations les plus fécondes consistent bien souvent à couler des idées nouvelles dans des moules antiques qu'il suffit de modifier partiellement pour les mettre en harmonie avec leur nouveau contenu. De même, le meilleur moyen de réaliser un nouvel idéal pédagogique est d'utiliser l'organisation établie, sauf à la retoucher secondairement, si c'est utile, pour la plier aux fins nouvelles auxquelles elle doit servir. Que de réformes sont faciles sans qu'il soit nécessaire de bouleverser les programmes et les cours d'études. Il suffit de savoir mettre à profit ceux qui sont en vigueur en les animant d'un esprit nouveau. Mais, pour pouvoir se servir ainsi des institutions pédagogiques qui existent, encore faut-il ne pas ignorer en quoi elles consistent. On agit efficacement sur les choses que dans la mesure où l'on connaît leur nature. On ne peut bien diriger l'évolution d'un système scolaire que si l'on commence par savoir ce qu'il est, de quoi il est fait, quelles sont les conceptions qui sont sa base, les besoins auxquels il répond, les causes qui l'ont suscité. Et ainsi, toute une étude, scientifique et objective, mais dont les conséquences pratiques ne sont pas difficiles à apercevoir, apparaît comme indispensable. Il est vrai que, d'ordinaire, cette étude ne semble pas devoir être très complexe. Comme une longue pratique nous a familiarisés avec les choses de la vie scolaire, elles nous paraissent toutes simples et de nature à ne soulever aucune question qui réclame, pour être résolue, un grand appareil de recherche. Depuis de longues années, nous avons connu, sous le nom de secondaire, un enseignement intermédiaire entre l'école primaire et l'université. Nous avons toujours vu autour de nous des collèges, et dans les collèges des classes, et par suite, nous sommes portés à croire que tous ces arrangements vont de soi, et qu'il n'est pas besoin de les étudier longuement pour savoir d'où ils viennent et à quelles nécessités ils répondent. Mais dès qu'au lieu de regarder les choses dans le présent, on les considère dans l'histoire, l'illusion se dissipe. Cette hiérarchie scolaire à 3 degrés n'a pas existé de tout temps, même chez nous. Elle date d'hier. Jusqu'à des temps tout récents, l'enseignement secondaire était indistinct de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, la solution de continuité qui le séparait de l'enseignement primaire tend à s'effacer. Les collèges, avec leur système de classe, ne remontent pas au-delà du XVIe siècle, et nous verrons qu'à l'époque révolutionnaire, il y a un moment où ce système disparut. Tant s'en faut qu'elles correspondent à une sorte de nécessité éternelle. C'est donc que ces institutions tiennent non à des besoins universels de l'homme parvenu à un certain degré de civilisation, mais à des causes définies, à des états sociaux très particuliers que seule l'analyse historique peut nous déceler. Or, c'est seulement dans la mesure où nous serons parvenus à les déterminer que nous saurons vraiment ce qu'est cet enseignement. Car savoir ce qu'il est, ce n'est pas simplement en connaître la forme extérieure et superficielle, c'est savoir quelle en est la signification, quelle place y tient, quel rôle il joue dans l'ensemble de la vie nationale. Gardons-nous donc de croire qu'il suffit d'un peu de sens et de culture pour résoudre au pied levé des questions comme celle-ci. Qu'est-ce que l'enseignement secondaire? Qu'est-ce qu'un collège? Qu'est-ce qu'une classe? Nous pouvons bien, par une analyse mentale, dégager assez facilement la notion que nous nous faisons personnellement de l'une ou de l'autre de ces réalités. Mais de quel intérêt peut être cette conception toute subjective? Ce qu'il nous faut arriver à démêler, c'est la nature objective de l'enseignement secondaire, les courants d'idées dont il est résulté, les besoins sociaux qui l'ont appelé à l'existence. Or, pour les connaître, il ne suffit pas de regarder en nous-mêmes, puisque c'est dans le passé qu'ils ont produit leurs effets, c'est dans le passé qu'il nous faut les voir agir. Bien loin que nous soyons fondés à poser comme évidente la notion que nous emportons en nous, il faut au contraire la tenir pour suspecte. Car, produit de notre expérience restreinte d'individus, fonction de notre tempérament personnel, elle ne peut être que tronquée et trompeuse. Il faut en faire table rase, nous obliger à un doute méthodique et traiter ce monde scolaire qu'il s'agit d'explorer comme une terre inconnue où il y a de véritables découvertes à faire. La même méthode s'impose pour tous les problèmes, même les plus spéciaux, que peut soulever l'organisation de l'enseignement. D'où vient notre système d'émulation, car il est vraiment trop simple d'en imputer toute la responsabilité aux jésuites. D'où vient notre système de discipline, car nous savons qu'il a varié selon les temps. D'où viennent nos principaux exercices scolaires, autant de questions à côté desquelles on passe sans même les soupçonner, tant qu'on se renferme dans le présent, et dont la complexité n'apparaît que quand on les étudie dans l'histoire. Nous verrons par exemple comment la place prise et gardée dans nos classes par l'exégèse des textes, soit anciens, soit modernes, tient à un des traits essentiels de notre mentalité et de notre civilisation, et c'est en étudiant l'enseignement médiéval que nous serons amenés à faire cette constatation.